Ordinateur. Voilà, ça dure 10 minutes. Stéphanie Lux, c'est à vous pendant une 10 minutes. Hein,
voilà,
allez, je vais dire une dizaine pour être équitable avec l'intervention de Franck.
Voilà, je vais essayer de tenir dans les temps. Je me ferai peut-être aider de Marc Barra, qui est écologue à Nature Parif. Donc Nature Parif, en quelques mots, qu'est-ce que c'est ? C'est l'agence régionale pour la nature et la biodiversité en Île-de-France qui a été créée donc à l'initiative de la région. Donc une région qui est une des plus petites du territoire français, puisqu'on fait 2% du territoire national et on accueille 20% de la population nationale. Qui se caractérise, donc pour ceux qui ne la connaissent pas, par un centre urbain hyper dense et puis des zones de nature patrimoniale sur les pourtours. Ça peut paraître étrange pour une agence régionale qui a été au départ faite pour s'intéresser à la nature et à la biodiversité, de travailler sur le bâti. C'est-à-dire, c'est vrai qu'on est organisé au départ. Notre première mission, c'était plutôt de voir comment on pouvait faire des indicateurs de suivi de la biodiversité, de la nature. Donc c'est vrai qu'initialement, certains ont été étonnés de nous voir nous intéresser à la question de la construction. Je vais redire un peu ce qui a été dit précédemment en vous présentant donc ce schéma qui pour nous est un peu la matrice dans laquelle nous travaillons. Donc c'est vrai qu'on a coutume, enfin moi la première fois que j'ai entendu parler de développement durable c'était à la fin des années 80 et donc c'était par quelqu'un de très bien qui s'appelle Dominique Dron qui m'a expliqué qu'en fait le développement durable c'était évaluer tous les choix qu'on faisait au regard de trois critères qui étaient l'environnement, le social et l'économique. Je suis partie et c'était déjà une définition qui était assez claire. C'est un petit peu, donc aujourd'hui nous trouvons sur Wikipédia le premier schéma qui vous montre donc une définition, il est pris dans Wikipédia, qui vous montre une définition du développement durable, donc avec les trois cercles, le social, l'économique et l'écologique. Ou l'environnement, ça dépend, ça varie selon les termes, mais c'est à peu près ça. Et donc on nous explique que le développement durable, c'est ce qui est à l'intersection des trois. C'est intéressant, mais depuis, on a un petit peu évolué en travaillant sur la problématique biodiversité. Nous avons choisi de ressortir ce vieux schéma, donc de René Passé, qui est le deuxième schéma, qui vous présente en fait ces trois cercles et ces trois sphères, non pas entrecroisées, mais enchâssées. Parce que donc là, je vais paraphraser un peu René Madec, Philippe Madec. Qui est intervenu en premier. Nous vivons bien dans un monde fini, et nous vivons donc sur la même planète. Et à ce stade, je crois qu'il n'y a pas de débat. Cette planète, elle est pour tout le monde. Donc le cercle vert étant donc la planète sur laquelle nous vivons, le social est à prendre au sens de sociétal, c'est-à-dire c'est les humains en fait qui vivent sur cette planète, et le troisième étant donc les sphères économiques et politiques qui s'entrecroisent puisqu'elles sont, il y a la sphère économique, c'est celle qui produit de la valeur, et la sphère politique étant celle qui organise les rapports entre le social et l'économique. À partir du moment, donc le problème posé étant, à partir du moment où on... Donc toujours, je repars sur le Club de Rome, à partir du moment où le nombre d'habitants augmente et où on a des politiques publiques qui encouragent une croissance chaque année, comment va-t-on faire pour tenir dans ce monde-là ? Voilà un petit peu le schéma et la matrice qui guide l'essentiel de nos actions donc à Nature Parif. Et c'est ce qui nous a conduit à nous intéresser au bâti, puisque en Île-de-France, on est une région qui avons donc d'une part... un besoin de logements, d'infrastructures, de bureaux qui va toujours croissant pour répondre à nos objectifs politiques. Et de l'autre côté, donc des matériaux qui sont prélevés dans les zones donc périphériques, puisque l'Île-de-France a un nombre de carrières qui parfois après sont transformées en magnifiques espaces de nature, certes. Mais nous avons quand même prélevé donc sur notre territoire un très grand nombre de matériaux de construction. Alors ça, c'est l'enjeu donc au plan international. Donc, c'est un document qui a été présenté à Hyderabad, réalisé donc par la Convention pour la diversité biologique, pour vous montrer que la question de la construction et du bâti est un enjeu mondial d'importance. Donc là, il vous rappelle que plus de 60% de la superficie prévue pour être un milieu urbain en 2030 reste à construire. Donc je crois qu'il y a un très bel enjeu devant nous et que le colloque qui est organisé aujourd'hui s'inscrit bien dans cette problématique. Alors en Île-de-France, on n'en est pas là, Dieu merci. Juste, ayez en tête une chose, c'est qu'en Île-de-France, on place en réserve un territoire, on a aujourd'hui moins de 1% de notre territoire en réserve. La réserve étant pour les étrangers, donc la réserve naturelle, c'est l'espace de nature patrimoniale totalement préservé auquel on ne peut absolument pas toucher. Nous sommes à un peu plus de 1%. Or, en Île-de-France, depuis 10 ans, chaque année, nous artificialisons, c'est-à-dire que nous construisons chaque année 2%, nous grignotons 2% de notre territoire. Voilà. Donc on a 1% figé, enfin un peu plus de 1% qui est en réserve, et chaque année, on artificialise 2%. C'est pour vous donner une idée des enjeux. Alors, voilà pourquoi on s'est intéressé donc à la construction. Pardon pour cette introduction un peu longue, mais je vais aller plus vite maintenant. Donc, on a abordé la question avec pas mal d'humilité, puisque on l'a abordé, donc Nature Paris, c'est une équipe constituée d'écologues, de naturalistes, de spécialistes des politiques publiques. La construction, a priori, c'était pas, on n'avait pas d'architecte, on n'avait pas d'ingénieur. Donc, on l'a pris avec beaucoup de simplicité. On a organisé des groupes de travail pour savoir, donc, sur la biodiversité, comment on pouvait réconcilier, en fait, construction et biodiversité. Donc, il est apparu, donc, une analyse qui, pour nous, est absolument, c'est un petit peu une autre matrice qu'on applique à la plupart de nos réflexions. C'est ce qu'on appelle, donc, l'analyse du cycle de vie. Donc là aussi, merci pour l'introduction qui a été faite à nouveau, puisque M. Madec a insisté sur la question du temps. Effectivement, il est intéressant, quand on conçoit un bâtiment, qu'on s'interroge sur son devenir quand il ne sera plus utilisé. C'est un véritable enjeu, notamment en termes de matériaux. Il se trouve qu'aujourd'hui, de plus en plus, pour des raisons strictement climatiques et de consommation d'énergie, on nous fait des bâtiments qui sont réalisés à partir de matériaux composites qui, d'une part, sont assez coûteux et consommateurs d'énergie quand on les produit, mais qui, d'autre part, le jour où le bâtiment ne servira plus, ne retourneront pas au milieu. Donc, c'est une vraie question. Donc, une analyse de cycle de vie, ça veut dire qu'on s'interroge sur les questions qu'on doit se poser au moment de la conception, au moment de la construction, au moment de ce qu'on appelle l'exploitation ou la vie dans le bâtiment, et enfin, donc, la déconstruction. Et pour nous, chaque projet devrait faire l'objet d'une évaluation à ces différentes phases. Donc, ça voulait dire que donc, dans nos groupes de travail, on a bien insisté sur, le fait d'associer donc, l'ensemble des métiers de cette filière. Donc, effectivement, nous, on part de l'extraction des matériaux qui servent à construire les bâtiments. Là aussi, donc, je crois qu'il a été fait allusion au Grand Paris. Il faut imaginer le nombre de matériaux que ça va nécessiter, d'une part, et aussi de l'extraction des remblais, parce que quand on creuse des tunnels pour faire passer des métros, il est évident qu'on sort de la terre, qu'est-ce qu'on en fait, où est-ce qu'on va la mettre? C'est des questions qui seraient intéressantes de se poser, peut-être avant de construire. Donc, extraction des matériaux, transformation, donc la façon dont on les transforme, et il est vrai qu'aujourd'hui, les matériaux dits basses, enfin, ceux qui permettent d'avoir une basse consommation, sont généralement très transformés et coûteusement transformés. Donc là, je rebondis sur l'intervention de M. Boutet, qui nous a bien expliqué, donc c'est l'énergie grise,
c'est ça? C'est ça.
Voilà, et ensuite, donc, la façon dont on va concevoir le bâtiment, le construire, comment on va le maintenir, donc voilà, et toutes les filières qui sont impliquées. Voilà, pour revenir donc sur la conception, et après je vais peut-être laisser la parole à Marc qui va venir prendre la parole et me remplacer. Juste que ça, c'est une démonstration que j'ai prise en fait dans un film qui s'appelle Norman et qui est sur la vie de Norman Foster, où en fait il raconte très simplement que, attention, si on veut une très jolie maison, un très joli pavillon, mais très agréable dans un espace vert, très certainement ça va se traduire par la deuxième chose, c'est-à-dire des routes encombrées ou des transports en commun qu'on ne pourra pas décliner à l'infini. Et que donc, il faut bien réfléchir à cette question. Donc, la question de la planification, elle est absolument essentielle. À l'heure où se discute en ce moment le SDRIF à la région Île-de-France, je crois qu'il faut bien garder à l'esprit que la plupart des habitants qui quittent Paris ne le font pas forcément pour des raisons économiques. Ils le font parce qu'ils ont besoin de nature. Voilà. Et donc, nous pensons à Nature Paris qu'il est tout à fait possible de concilier nature et ville. Voilà. Je laisse la parole à Marc qui va rapidement vous présenter la suite.
Merci Stéphanie Lux, Marc Barra. Allez, 2 minutes, hein, vraiment 2 minutes.
Alors, sur les aspects techniques au sein de ce guide, on s'était forcé à penser, comme l'a dit Lucas Badi ce matin, à penser système et non pas à cloisonner les thèmes les uns après les autres. Et un bon exemple, c'est la question des sols. S'intéresser aux sols, c'est à la fois s'intéresser au carbone et au climat, puisque les sols stockent du carbone. C'est s'intéresser à la végétalisation, puisqu'ils sont au support des plantes. Et c'est aussi s'intéresser à l'eau, notamment dans la capacité qu'ont les sols à filtrer, épurer l'eau et à la reconduire vers les nappes. Et ce petit dessin est assez illustrateur. Et en fait, ce qu'on essaie de montrer aussi aux collectivités, aux élus, c'est de dire que s'occuper des sols, c'est peut-être aussi réduire les coûts à long terme, notamment liés aux canalisations, aux infrastructures et puis au traitement de l'eau en fin de vie, donc encore cette approche en cycle de vie. Parmi les techniques qui sont à l'œuvre pour éviter l'imperméabilisation des sols, on a ceci, les pavés drainants, les dalles enherbées sur les espaces extérieurs. Alors j'étais d'accord tout à l'heure avec Franck Boutet qui disait il ne faut pas forcément de normes par rapport à la biodiversité. Par contre, à un certain point, la norme permet l'innovation. C'est-à-dire que si on dit que l'impératif, c'est pas imperméabiliser les sols, vous avez des millions d'innovations qui existent derrière pour ne pas les imperméabiliser.
Ça, c'est un objectif, c'est pas une norme.
En quelque sorte,
c'est plutôt un objectif.
Ça peut être normé, le fait de ne pas imperméabiliser.
C'est raisonné par objectif plutôt que par norme.
Donc, il ne faut pas confondre les deux. D'un point de vue du bâti en lui-même, on a des choses très innovantes qui se font et qui apparaissent de plus en plus. Le meilleur exemple pour moi, c'est à droite, ici, en bas, qui est un éco-quartier dans le quartier du Séquet à Bayonne et qui a construit ses bâtiments R+4, R+5 sur pilotis. Et donc, sans avoir voulu au départ préserver les continuités écologiques, ni préserver les sols, ça a été fait un petit peu au hasard pour le geste architectural, finalement, ils se rendent compte qu'ils n'ont pas eu besoin de réseau de canalisation, puisque c'est un réseau de noues qui récupère les eaux de pluie et de ruissellement et qui les achemine vers un bassin de phytoépuration qui traite par ailleurs les eaux usées. Donc on a non seulement une gestion de l'eau efficace, des coûts réduits par rapport aux coûts à l'investissement initial, et puis des continuités qui sont préservées pour les petits mammifères, les insectes, sous les bâtiments. Ça, je vais passer très vite, puisque Philippe Pégère, dont j'ai pris les photos ici, en parlera beaucoup mieux que moi cet après-midi. Mais sur la question des toitures végétalisées, là aussi, se poser la question de la fonctionnalité, c'est essayer de regarder ce qu'on fait maintenant, qui est plutôt du domaine de la peinture verte. Donc des toitures avec une très faible épaisseur, donc souvent de la pouzzolane et du sédum qui est utilisé, mais qui n'a finalement que peu de fonctionnalités en matière de rétention d'eau, en matière de stockage du carbone et en matière d'accueil de la faune et la flore. Le même exemple pour les murs végétalisés, on en a parlé tout à l'heure, même si c'est esthétique, et d'ailleurs ça a été fait pour ça, on ne remettra pas en cause le côté esthétique des murs végétalisés, mais on peut s'interroger derrière, il y a un circuit court, par exemple sur celui du Quai Branly, un circuit d'eau qui tourne 24 heures sur 24 et qui alimente le mur. Il y a des plantes qu'on est obligé de changer tous les 2 mois ou 3 mois pour maintenir le mur en fonctionnalité. Donc c'est des questions qui se posent. Et voilà, on a des réponses quantifiables ici, on en a beaucoup parlé ce matin, mais une toiture végétalisée, quand on a un substrat suffisamment épais, comme ici une étude des chercheurs de l'université de Bochum en Allemagne, quand on a un substrat qui dépasse 20 cm, une végétation variée qui crée différents milieux, eh bien on arrive à des résultats à réduire l'îlot de chaleur urbain en ayant fait des choix écologiques.
Allez, rapidement, et puis on se tournera vers votre livre « Bâtir
Voilà, avec au niveau de l'architecture, là aussi, il y a matière à innover, à stimuler l'innovation, des choses les plus cocasses jusqu'à des aménagements simples comme les nichoirs intégrés aux façades des bâtiments. Moi, j'aime bien cet exemple parce que, du coup, c'est une architecte qui a fait ces nichoirs-là, mais aujourd'hui, ces nichoirs sont pour aucun oiseau parce qu'en fait, ils n'ont pas été dimensionnés. Donc, ça, pour insister sur le dialogue en amont avec les naturalistes et les écologues, pour se dire, voilà, quels sont les oiseaux qui passent à proximité et qui nichent ici, pour pouvoir mieux les accueillir. Et ma dernière slide, ce sera celle-là pour appuyer ce qu'a dit Stéphanie. C'est qu'un bâtiment, aujourd'hui, a une empreinte tentaculaire sur la planète. Et puis, ce bâtiment-là qui est au milieu, c'est un bâtiment qui s'appelle Bonne Énergie, qui est à Grenoble, et que peut-être certains d'entre vous ont visité, que sont les bâtiments typiquement passifs qu'on fait aujourd'hui. Mais bon, quand on monte dans le bâtiment, on se rend compte qu'il y a une terrasse en bois, mais en teck d'Amazonie. Et puis, les panneaux solaires, c'est du silicium qui a été prélevé dans des carrières en Algérie. Et toute l'isolation, comme l'a rappelé Stéphanie, c'est des produits dérivés du pétrole qui vont émettre des gaz à effet de serre tout au long de leur cycle.